Bonjour à tous, et en ce dernier vendredi du mois, une émission philo, nous recevons André Comte-Sponville. Avec lui, nous consulterons quelques pages de la nouvelle édition de son dictionnaire philosophique et nous prélèverons quelques définitions pour éclairer l'actualité et la situation sanitaire que nous vivons depuis 18 mois. Idiotie, ignorance, populisme, narcissisme, santé, peur, bonheur, amour, sens, spiritualité. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rémy.
Ce sont des mots qui vous parlent, hein, tous ces mots-là. Hein.
Tous.
Vous remplacez cette semaine Thibaut de Saint-Maurice. Quel est le menu de votre chronique philosophique?
André Comte-Sponville.
Évidemment, en toute modestie. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié.
Oui, absolument. Comme le philosophe que vous invitez n'est pas un personnage de fiction, j'en ai choisi un autre, mais il est aussi particulièrement dans l'actualité et le restera.
Bonjour Maïa Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous voie tout au long de l'émission.
Hors de question.
Quel est le menu de ta chronique sexe?
Moi, j'ai beaucoup lu les pages érotisme, désir, luxure, mais j'ai décidé de parler d'un sujet très sérieux, la démesure et l'excès en sexualité.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Voilà, donc inconscient et subconscient, hein. Donc, je pense qu'avant tout, le problème, c'est une question de souplesse, hein. Donc, maintenant, on fléchit bien. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients. Maintenant, on réfléchit, bien sûr. Et trois conscients et subconscients, hein. Tout dans les genoux. Question de... OK?
Il n'est pas inconnu, notre invité. Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Vous êtes l'un des philosophes les plus lus en France. On se souvient bien évidemment du Petit Traité des Grandes Vertus. Et vous proposez une nouvelle édition de votre dictionnaire philosophique publié au PUF avec 613 nouvelles entrées.
Oui, donc un peu plus de 2200 entrées au total. Oui, parce que j'ai publié une première édition en 2001, une deuxième édition déjà très augmentée en 2013, et donc troisième édition, je pense que c'est la dernière, en 2021. Et je suis content, au fond, parce que, évidemment, c'est une entreprise qu'on ne pourra jamais achever. Hein. C'est un peu comme les essais de Montaigne. Montaigne disait, j'ai entrepris un travail que je continuerai aussi longtemps qu'il y aura encre et papier au monde. Et bien, j'ai envie de dire qu'un dictionnaire philosophique, c'est pareil. On peut toujours ajouter de nouveaux mots, donc de nouvelles définitions.
Alors avant de plonger dans quelques définitions prélevées à saut et gambade dans votre dictionnaire, j'aimerais qu'on s'attarde sur votre engagement depuis le début de la pandémie. Vous critiquiez ardemment le fait que nos sociétés, nos gouvernements aient sacrifié la jeunesse, l'économie. Comme le note le point, hein, par peur d'une mort hypothétique, ne sommes-nous pas en train de sacrifier la vie? Nous avons collectivement cédé à la pulsion de mort, André Comte-Sponville.
Non, je ne dirais pas jusque-là. D'ailleurs, je n'ai pas été si sévère que ça avec le gouvernement.
Pas tant que ça.
Je n'ai jamais condamné les confinements. J'ai toujours qu'il fallait les respecter. Je n'étais pas non plus approuvé, parce que je pense qu'il y avait des mesures qui étaient exagérément rudes et infantilisantes. Non, mais ce qui me frappe le plus, au fond, c'est que, oui, je pense qu'il y a eu une peur du virus qui était exagérée. Et c'est pourquoi j'ai rappelé qu'on va tous mourir forcément, que la plupart d'entre nous ne mourront pas de Covid-19 et que donc faut pas non plus faire du Covid l'essentiel de notre vie. Mais maintenant, ce qui m'effraie, c'est la peur du vaccin. On est passé non pas d'une peur à la sérénité, mais d'une peur à une autre. Et comme les gens, enfin c'est pas tous, mais beaucoup de gens avaient peur du vaccin, donc le gouvernement invente le pass sanitaire qui me laisse à nouveau réservé, mais bon, il a le droit, c'est le gouvernement. Le gouvernement invente le pass sanitaire pour pousser les gens à se vacciner, et du coup, les mêmes ont peur maintenant de la dictature. Ce qui est aussi déraisonnable qu'avoir peur du vaccin ou qu'avoir peur du Covid, vous voyez. Donc on vient de vivre trois peurs successives qui, dans les trois cas me paraissent exagérés. Et donc le rôle d'un philosophe, c'est pas de faire une ordonnance avec le médicament, je n'ai jamais pris position sur quelque traitement que ce soit, mais c'est peut-être de rappeler un peu de bon sens, de recul, de sérénité.
On reviendra sur la question de la peur tout à l'heure. J'aimerais qu'on s'attarde sur la mort. C'est vrai que cette pandémie nous a fait prendre conscience collectivement du tragique de nos sociétés, tragique dans des sociétés gâtées, opulentes, avec en ligne de mire la mort. Dans votre dictionnaire, vous écrivez « Disons que la mort n'est rien, mais que nous mourrons. Cette vérité, au moins, n'est pas rien. » Sur la mort, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces sociétés, nos sociétés qui ont pris conscience collectivement de la mort?
D'abord, que je trouve extraordinaire qu'en 2020, en l'occurrence, des gens qui ne sont pas des enfants grâce, à cause d'une pandémie dont le taux de létalité reste faible, inférieur à 1%, redécouvrent qu'ils sont mortels. Ah bon, tu l'avais oublié? Quel scoop! Nous allons tous mourir. Alors ça me sidère. C'est pourquoi, là encore, dans le premier entretien que j'avais accordé au tout début de la pandémie à un journal, je disais à votre consoeur, en l'occurrence, j'ai deux nouvelles à annoncer à vos lecteurs. Une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on va tous mourir. Ah oui, forcément, un jour ou l'autre. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre nous mourront d'autre chose que de la Covid-19, si vous voulez. Et donc, il faut revenir au bon sens, à la sagesse, à Montaigne. Montaigne écrit « Un tout contentement des mortels est mortel ». C'est pas seulement qu'on va mourir, mais c'est que chaque jour entraîne la mort des jours passés. Tout contentement des mortels est mortel. C'est un mantra, ça, qu'on peut méditer indéfiniment. Le même Montaigne écrit « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». C'est formidable. Souvent dit aux médecins qu'il fallait graver ça en lettres d'or à l'entrée des hôpitaux. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et tant qu'on a peur de la mort, comment peut-on aimer la vie? Enfin, troisième citation de Montaigne. Montaigne écrit, et c'est une des plus belles phrases qu'on ait jamais écrites en français, l'une des plus profondes. Je veux qu'on agisse. Et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Et que la mort me trouve plantant mes choux. Mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. J'adore cette nonchalance. Et donc, je disais là encore à un journaliste au moment du premier confinement, je souhaite à vos lecteurs un confinement nonchalant et actif.
Si vous comprenez, il ne faut pas apprendre à mourir, mais apprendre à vivre.
Mais bien sûr, Montaigne l'écrit là encore, la mort est le bout, non le but de la vie. Et donc, quand Platon écrit « philosopher, c'est apprendre à mourir », Montaigne, qui cite la formule, prend le contre-pied. Non, « philosopher, c'est apprendre à vivre ». Mais comme la mort fait partie de la vie, apprendre à vivre, c'est aussi accepter la mort, vous voyez. Mais on en aimera que mieux la vie. André Gide, qui est un grand lecteur de Montaigne, a écrit dans « Les nourritures terrestres »« Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie ». C'est beau, hein, y compris dans la répétition apparemment maladroite et en vérité très belle du pas assez. Une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. Autrement dit, si on pensait plus souvent que nous allons mourir, on vivrait d'autant plus intensément chaque instant que cet instant se détacherait, comme disait là encore André Gide, sur le fond très obscur de la mort. Autrement dit, accepter la mort et aimer la vie, ça va ensemble. La peur de la mort et la fuite de la vie, ça va ensemble aussi, malheureusement. Et c'est vrai que pendant la pandémie, moins maintenant grâce au vaccin, et c'est très heureux, mais il y a eu des moments où, je l'ai dit, la peur de la mort l'emportait sur l'amour de la vie. C'est un mauvais symptôme.
Guillaume Todisino.
Évidemment, mais moi je voudrais revenir à la peur, mais à la peur de la jeunesse en fait. Tous ces jeunes, on a vu qu'il y a énormément de dépression d'étudiants, d'adolescents, suite au confinement. Parce que en fait, cette belle injonction, agir, agissez. Le problème, c'est que la jeunesse, déjà, elle se posait, avant même que la maladie arrive, que la pandémie arrive, elle se posait la question de son avenir, de comment agir, de comment bien agir pour construire sa vie. Et en plus, la Covid-19 est arrivée pour lui dire « Ah bah de toute façon, tu es d'autant plus mortel et on sait même pas quel va être l'avenir mondial. » Donc ça a provoqué vraiment une dépression majeure chez les jeunes.
Mais oui, c'est ce qui m'afflige le plus. Moi, je suis père de famille avant d'être philosophe. Et je l'ai dit, j'en pleurerais quand je vois le sort qu'on a imposé aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes pour protéger la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je trouve ça inouï, l'idée que des étudiants cloîtrés dans leur chambre de bonne sous le soleil et la canicule qu'il y avait en mai 2020, qui ne pouvaient plus aller à la fac, qu'elle était fermée, qu'il ne pouvait plus, qu'il était chômeur, chercher du boulot. C'est pas étonnant qu'il déprime. Et donc, voilà, moi, je crois que les gens de ma génération, les baby-boomers, moi, j'ai 69 ans et demi, bien tassé, ils ont eu beaucoup de chance. Alors, c'est vrai que la pandémie, bon, on préférerait ne pas mourir, si possible, trop tôt. Mais enfin, les démographes ont calculé que nous avons, du fait de la pandémie, perdu 6 mois d'espérance de vie. Alors qu'on avait gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 1946. D'un côté, on a gagné 20 ans, on perd 6 mois, tout le monde s'affole. Alors que les jeunes, comme l'a dit là pour le coup Macron avait raison, c'est pas de la chance d'avoir 20 ans en 2020, disait-il. Il a raison. Et donc je dis que la priorité des priorités, ça ne sont pas les plus vieux, contrairement à ce que tout le monde répète, et j'en fais partie, donc je peux le dire. La priorité des priorités, pour moi, ce sont les jeunes en général et les enfants en particulier.
Laurence de Villers.
Alors moi je reprendrai cette phrase d'André Comte-Sponville parce que je pense qu'elle est rare. j'en pleurerai. Et d'une certaine façon, j'entends très bien Montaigne, hein, de la même façon que j'entends très bien les stoïciens, Sénèque, être à la hauteur de ce qui nous arrive, aimer la vie pour ce qu'elle est, parce qu'elle est la vie et que dans la vie, il y a la mort. Mais d'une certaine façon, moi, je prendrais le parti des larmes et je trouve que l'humain est précisément celui qui met en place tout un système de conjuration de la mort, parce que on ne peut pas la penser. Le contentement de nous, humains, qui serait toujours fini, parce que nos journées sont finies, donc le plus grand bonheur, il connaîtra sa nuit. Bah, c'est un drame de l'existence. J'ai eu André Comte-Sponville pour prof, donc c'est l'occasion. J'ai essayé, et quand je relis le dictionnaire, je me suis dit oui, je comprends ce gai désespoir, mais je ne peux pas le faire mien, c'est-à-dire que le fait que les choses finissent pour nous humains, et pas seulement la vie, mais l'amour, une bonne journée, le travail, l'amitié, c'est le tragique de notre existence.
Et j'en suis parfaitement d'accord avec vous. Et là-dessus, j'ai évolué. Parce que c'est vrai que dans mes premiers livres, le gai désespoir est un peu une élimination du tragique. Et puis, la vie d'une part, Montaigne d'autre part, m'ont rappelé que le tragique fait partie de la condition humaine. S'agissant par exemple de la mort, si on peut la penser, moi qui suis athée, pour moi la mort, c'est rien. Et donc, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, ce qui est idiot. Oui, mais en même temps, c'est la définition même de l'angoisse. L'angoisse est une peur sans objet, c'est la peur du néant, si vous voulez. Et donc, il faut accepter que l'angoisse aussi fasse partie de notre vie, que le tragique fasse partie de notre vie. Et c'est pourquoi, par rapport à mes tout premiers livres, je ne renie rien de ce que j'ai écrit sur le désespoir, sur la joie, sur l'amour, mais c'est vrai que j'ai été amené à repenser le tragique et à lui donner une place beaucoup plus importante dans la condition humaine. Et donc, quand je dis qu'on mourra tous, c'est ça la dimension tragique, ou que tout contentement des mortels est mortel. C'est encore plus tragique que le fait de mourir au bout du compte, eh bien, il faut aussi l'accepter. Et c'est là où Montaigne reprend et prolonge la sagesse de l'Ecclésiaste, qui est, de tous les livres de la Bible, celui qui me touche le plus de très très loin.
Et la vie, donc. Vous citez la définition de la vie de Bichat, qui est très belle. La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Que veut dire vivre ce dur désir de durer en cette période de pandémie ?
Ben ça veut dire d'abord la même chose que ça a toujours voulu dire. Hein. Faut croire que la pandémie va tout changer, mais ça veut dire par exemple respecter les gestes barrières, se faire vacciner. Hein. J'invite tout le monde à se faire vacciner, porter le masque tant que c'est encore nécessaire dans telle ou telle circonstance, en espérant que tout ça ne durera pas longtemps, mais surtout ne pas laisser la pandémie nous gâchait l'existence. Alors c'est pour ça que je souffre tellement pour les jeunes qui sont dans des positions bien plus difficiles que nous. Parce que on dit protéger les plus fragiles. Oui, mais les plus fragiles, c'est pas les plus vieux, sauf en termes de santé. Alors voilà, oui, en termes de santé, je suis plus fragile que mes enfants. Mais pour tout le reste, ils sont bien plus fragiles que moi. Moi, ma vie, elle est faite. Que voulez-vous qu'il m'arrive de vraiment grave, à part justement un problème de santé qui arrivera de toute façon tôt ou tard. Mais mes enfants, leur vie n'est pas faite, elle est à faire. Quel est le plus grand risque de la vie ? Mourir jeune. Face à ce risque-là, je suis parfaitement invulnérable. Il est certain que je ne mourrai pas jeune. Mes enfants peuvent mourir jeunes. Deuxième risque, le chômage. Moi, je suis à la retraite. Je suis parfaitement invulnérable contre le chômage. Mes enfants ne sont pas invulnérables. L'un des trois est au chômage en ce moment. Troisième risque, le réchauffement climatique. Dans 30 ans, peut-être la vie sur Terre sera beaucoup plus difficile. Oui, mais dans 30 ans, je serai mort, à la limite. Je suis protégé de ce risque-là. Mes enfants ne sont pas protégés. Voyez. Et donc, quand je dis j'en pleurerai, c'est que le père de famille que je suis ne peut pas accepter qu'on complique à ce point la vie des jeunes en général, de mes enfants en particulier, pour protéger la santé de leur vieux papa. Alors ça, je trouve ça hallucinant. C'est la première fois, me semble-t-il, qu'on sacrifie notamment l'éducation des enfants à la santé de leurs grands-parents. Je n'arrive pas à y voir une victoire de l'humanisme, j'y vois une victoire de la peur.
Maya Mazorette.
Juste un petit chiffre pour confirmer ce qu'on vient de dire. Il y a l'UNICEF qui vient de rendre son rapport sur l'éducation des jeunes il y a quelques jours, et on y apprend que la moitié des jeunes de 8 à 16 ans sont très angoissés par leur avenir, parce qu'il les attend.
Exactement. Allez, il est temps de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, cette semaine, vous nous conseillez de devenir ami avec un homme a priori ordinaire.
A priori, Ali. Alors Ali, si vous saviez le temps qu'il m'a fallu pour convaincre cet ami de parler de lui dans un micro. Ils font dire que mon cher Truman a un sacré passif avec les médias. Mais j'ai fini par le convaincre que rien n'était fabriqué dans cette émission, que personne n'y jouait la comédie. Truman, dont l'histoire a été si bien racontée dans The Truman Show, le chef-d'œuvre de Peter Weir et son scénariste Andrew Niccol. C'est le genre d'ami assez rare et particulièrement précieux qui vous pousse à déconstruire tout ce que vous tenez pour acquis, à regarder derrière l'écran des apparences, à vous interroger sur ce qui semble trop évident, trop lisse, un peu trop bien tracé. J'ai eu la chance folle de le rencontrer alors même qu'à 30 ans, il venait de braver une tempête pour enfin s'échapper de cette existence totalement factice qu'il vivait depuis sa naissance dans un soap télé quotidien devant 5000 caméras branchées en permanence. Il venait à peine de sortir du décor géant de cette vie soi-disant normale, créée et stéréotypée de toutes pièces par un producteur de télé qui se prenait pour Dieu. Et Truman, c'était un moulin à paroles. Il me racontait comment les gens de sa petite ville lui offraient des sourires totalement dénués de sincérité. Comment il s'était cru aimé, mais ses proches n'étaient que de très bons comédiens. Comment son trajet se répétait, toujours les mêmes trajets pour se rendre au boulot, puis à la maison. Et comment il se retrouvait étrangement pris dans les embouteillages à chaque fois qu'il rêvait de s'échapper vers une existence non balisée. Comment il avait commencé à trouver pénible qu'autour de lui, tout le monde fasse constamment du placement de produits ou parle comme dans les publicités. Truman se pensait unique. Et pourtant, je ne cessais de lui répondre « Ben, comme moi, Truman, comme nous tous. » Il a fallu du temps pour qu'il admette que sa vie fictive n'était pas si éloignée de notre réalité. Dès ses premiers jours de liberté, il s'est plongé dans les classiques de la philosophie, découvrant que son show, en fait, n'était ni plus ni moins qu'une version moderne de l'allégorie de la caverne de Platon. Pendant 30 ans, son monde avait été cette caverne. Et avant d'ouvrir les yeux et de se battre pour en sortir, on ne lui avait projeté que des ombres, des leurres télévisuelles qui se faisaient passer pour la réalité. Alors qu'en ce moment, des spectateurs puissent trouver des accents de vérité à certains leurres dangereux qui s'expriment en boucle à la télé, il n'en revient pas, Truman. Il me demande constamment « Mais pourquoi les gens ne décident-ils pas juste d'éteindre le poste ?» Lui, quand il a besoin d'un vrai reflet de la réalité, il plonge ses yeux dans ceux de Sylvia. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Truman, sachez que Sylvia était la seule qui avait tenté de lui révéler qu'il n'était qu'une marionnette. Évidemment, elle avait été virée du show télé. Alors, en attendant de trouver la force de tourner le dos aux faux-semblants, il découpait des regards de femmes dans des magazines, et il cherchait celui qui ressemblait le plus au vrai amour de sa vie.
Alors Guillemette, comment va votre ami Truman aujourd'hui ?
Eh bien, beaucoup mieux, merci. Il vit avec Sylvia, ils ont même la télé. Mais Truman regarde exclusivement des films. Pour lui, seule la pure fiction, en fait, ne ment jamais. Et il prépare enfin le grand voyage dont il avait toujours rêvé.
T'as jamais eu envie de tailler la route ?
Pour aller où ? Aux Fidji. C'est où les Fidji ? Au large de la Floride ? Regarde.
Ouais.
Nous, on est là. Et à l'autre bout de la terre, les Fidji. C'est-à-dire que si tu vas plus loin, tu reviens vers le point d'où tu es parti. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des îles dans les Fidji sur lesquelles aucun être humain n'a encore posé le pied ? Pouh. Et alors ? Tu pars quand ? C'est là que ça se complique. Ah oui, il faut de l'argent, du temps. C'est ça le truc. Il suffit pas de vouloir.
Ouais.
Ah mais je le ferai, t'inquiète pas pour ça. Le bonheur attend au coin de la rue.
Le coin de la rue, justement. Je vous ai dit que Truman habitait Paris. Dimanche dernier, il était à l'Arc de Triomphe. Alors, un peu mal à l'aise, tout de même, car Christo, cela lui rappelait le nom du producteur télé, Christophe, qu'il avait si longtemps manipulé. Mais je vous lis le message qu'il m'a envoyé. J'ai pleuré, tu sais. Je ne m'attendais pas à tant de beauté. En fait, seuls les vrais artistes devraient avoir le droit d'emballer la réalité.
Merci beaucoup, Guillemette Audicino. Je sens que vous allez donné le Blu-ray, le DVD de The Truman Show à André Comte-Sponville. Tiens, justement, André Comte-Sponville, parmi vos amis de fiction, il y en a un qui vous accompagne encore et toujours, c'est Athos.
Oui, c'est...
Athos dans Les Trois Mousquetaires de Dumas.
Dans Les Trois Mousquetaires, encore mieux dans 20 ans après, chef-d'œuvre sublime, et dans Le Vicomte de Brazen. Parce que c'est le plus désespéré, c'est le plus sombre des quatre mousquetaires. C'est le plus tragique, voilà, c'est le plus tragique des quatre mousquetaires. C'est même en toute rigueur le seul à être un héros tragique, et en même temps c'est le plus noble, le plus courageux, le plus généreux. Il est sublime, Athos. Et donc, il donne raison à l'idée qu'on n'a pas besoin d'espérer pour entreprendre, et surtout qu'on n'a pas besoin d'espérer une autre vie ou que sais-je, pour être un homme droit, généreux et courageux. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé d'écrire que tous les livres de philosophie que j'ai écrits, c'était pour donner à Athos la philosophie qu'il mérite. Et au fond, c'est vrai qu'Athos, alors j'ai relu moi 4 ou 5 fois toute la trilogie des Trois Mousquetaires, Athos m'a vacciné dès mes 7 ou 8 ans contre toute tentation nihiliste ou immoraliste. L'idée que tous valent ou ne valent rien, il suffit d'avoir aimé Athos à 7 ou 8 ans pour comprendre que c'est définitivement faux.
Et n'hésitez pas à podcaster et à partager L'Ami du Vendredi de Guillemette Audicino sur l'appli et le site de France Inter et de regarder The Truman Show ce week-end. Dans quelques instants, on continue à feuilleter la nouvelle édition du dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville. Tout au long de la semaine, Grand Main Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux-Gélaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan, avec à la technique cette semaine le duo de choc Pauline Laverdure et Kevin Pelot, et avec Pierre-Yves de Rolin. Programmation musicale, Valentine Chaudebois. Et on écoute Aretha Franklin. Aretha Franklin, Sink.
Le temps des cerises, des chansons d'amour.
Grand bien vous fasse.
Le temps pour tout qui fait coucou à la bonne heure. Le temps d'histoire pour rien, le temps que je tue pour rire.
Sur France Inter.
Et ce matin, nous feuilletons quelques pages de la nouvelle édition du dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville. Alors, j'ai feuilleté ce dictionnaire. Et tiens, on est en pleine crise sanitaire. Les anti-vax et compagnie, les complotistes sont très présents dans l'actualité et ailleurs. Bah tiens, je vous propose d'écouter cet extrait de Groland.
Le Groland voit enfin le bout du tunnel dans la pandémie du coronavirus avec l'annonce de l'arrivée de 3 vaccins dès le mois de janvier. Les Grolandais auront l'embarras du choix entre le vaccin de Bill Gates qui implante des nanopuces électroniques traçantes et rend les enfants autistes, le vaccin sataniste et pédophile des laboratoires secrets Canon qui rend stérile et vous convertit au socialisme, est le vaccin biotech judéo-maçonnique qui rétrécit le pénis et vous transforme en antenne relais 5G.
Alors c'est évidemment de l'humour, c'est tiré d'un sketch de Groland diffusé sur Canal+. Alors à propos du complotisme anti-vax, André Comte-Sponville, j'ai retenu deux entrées, ignorance et idiotie. L'ignorance d'abord, c'est évidemment le manque de savoir.
C'est le manque de savoir et c'est le statut originel de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est sans rien savoir, sans rien connaître, et il y aura toujours beaucoup plus de choses que nous ignorons que de choses que nous savons. Vous prenez le plus savant des humains et le plus ignorant, ils ignorent autant de choses, ils ignorent tous une infinité de choses. Et donc ce qui compte, c'est pas l'ignorance, c'est le savoir. Et profitons de l'occasion pour saluer l'incroyable performance de nos scientifiques. Créer un vaccin ou des vaccins contre un virus nouveau en une année, c'est un exploit formidable. Et donc tous ceux qui au début de la pandémie disaient c'est la fin du monde, ou la fin de la civilisation, la fin du capitalisme, que sais-je, j'ai envie de dire, écoutez, notre civilisation ne se porte pas si mal. Jamais la science n'a été aussi performante qu'aujourd'hui. Et donc c'est une raison de confiance. Voilà.
Mais que répondre à l'ignorance de cette femme que j'ai croisée hier et qui m'affirmait sur un ton péremptoire que le coronavirus, c'est vrai, hein, n'existait pas et que c'était un complot mondial? Que répondre face à cette ignorance-là?
C'est le propre des gens vraiment incompétents, c'est qu'ils sont tellement incompétents qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils le sont. Alors que les gens vraiment compétents sont lucides sur tout ce qu'ils ignorent, si vous voyez. Et c'est le paradoxe, vous voyez, des scientifiques brillants qui n'arrêtent pas de rappeler qu'ils ne savent pas tout, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils se sont trompés, etc. Et vous voyez, des ignorants sûrs de leur prétendu savoir.
Alors cette personne qui m'affirmait sur un ton péremptoire que le coronavirus n'existait pas faisait sans doute preuve d'une imbécilité prétentieuse. Dans l'imbécilité prétentieuse, il y a une forme de narcissisme. C'est l'une des entrées de votre dictionnaire.
Oui, c'est l'imbécile prétentieux est sans doute la figure humaine qui m'agace le plus. Et il y en a des tas. Il y en a des tas parce que pas forcément des gens qui sont imbéciles au sens strict du terme. J'ai vu des imbéciles prétentieux, professeurs à la Sorbonne, si vous voulez. C'est l'exception, mais ça peut arriver. Mais une façon, là encore, d'être tellement content de soi, tellement sûr de soi, qu'on est incapable de comprendre, par exemple, les objections ou le point de vue des autres, c'est quand même une forme de bêtise, et ça va avec la prétention. Parce qu'inversement, l'humilité, quand on est un peu lucide sur ses propres faiblesses, on a moins de mal à comprendre les arguments des autres. Et donc, on est un peu plus intelligent. J'ai envie de dire que l'humilité ne suffit pas à l'intelligence, mais y pousse, mais que la prétention enferme dans une forme, en effet, d'imbécilité.
Mais est-ce que l'absence de savoir ou l'absence de culture pousse ceux qui ne sont pas cultivés à détester, à rejeter la personne cultivée, et donc à se claquemurer dans cette espèce d'ignorance éclatante et même agressive, parce qu'en fait on n'aime pas que l'autre soit expert, on lui en veut de l'être.
Ça arrive malheureusement. Une partie du populisme se joue là, dans la haine des élites, qui fait partie du populisme. Il n'y a pas que ça, mais c'est l'un des traits du populisme. Il y a un peu, effectivement, reprocher à l'autre des qualités ou des savoirs ou une culture que l'on n'a pas. Alors, qu'on n'a pas, peut-être pas forcément de sa faute, on n'a peut-être pas eu de la chance, pas eu la bonne éducation, mais je crois qu'il y a ça, la haine anti-élite qui se développe de façon tout à fait inquiétante, y compris pendant la pandémie, on l'a vu. C'est un très mauvais syndrome pour notre société. Moi, j'ai été frappé du temps de Chevènement parce qu'il appelait l'élitisme républicain. Et je crois que nous avons besoin d'une école qui respecte l'égalité des chances, mais justement pour produire les élites dont nous avons besoin. La démocratie, c'est pas l'égalitarisme, on serait tous au même niveau. Il y a des gens plus talentueux que d'autres, plus travailleurs que d'autres, malheureusement plus riches que d'autres. Alors, combattons la sélection sociale à l'école, à l'université, ça va de soi. Mais de grâce, ne décourageons pas les jeunes qui ont de l'ambition. Je suis un peu frappé et un peu embêté de voir que dans les écoles, on a tendance à considérer que l'ambition, l'émulation, c'est plutôt des défauts. Parfois, on supprime les notes pour ne pas humilier les mauvais élèves et puis pour ne pas pousser les bons élèves à devenir trop ambitieux, avoir trop d'émulation. Mais enfin, l'émulation fait partie de la condition humaine. Si bien, vous voyez des gamins, les bons élèves qui se font traiter de bouffons dans leur classe parce qu'ils sont bons élèves, ce que je trouve
hallucinant. Ils se font traiter d'intello.
Et c'est une insulte, intello. Il n'y a plus d'émulation à l'école et les mêmes gamins connaissent le classement de la Ligue 1 en football par cœur du premier au dernier. Bah oui, parce que l'émulation fait partie de la condition humaine. Si on la chasse de l'école, elle va se réfugier dans le sport. Il faut rappeler que les jeunes ont le droit d'être ambitieux, ont le droit de vouloir travailler, de vouloir réussir.
Maya Mazorette.
Je rétropédale juste un petit peu dans la conversation. L'imbécilité prétentieuse, en fait, ça porte un nom de syndrome, un biais cognitif. C'est l'effet Dunning-Kruger, qui fait que plus les personnes sont ignorantes dans un sujet, plus elles ont l'impression de s'y connaître parce qu'elles n'en voient pas l'ampleur. Et à l'inverse, plus on est spécialiste d'un sujet, plus on a l'impression de rien comprendre et d'être complètement, complètement abruti.
Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, on a parlé de la peur qui domine nos vies depuis 18 mois, peur de la pandémie, peur de l'autre, peur de ceux qui ne nous ressemblent pas. La peur, c'est l'un des carburants du populisme. Le populisme, cette forme particulière de démagogie qui prétend prendre le parti du peuple contre les élites ou contre les étrangers. Je cite votre dictionnaire, André Comte-Sponville.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le populisme ? Il se caractérise d'abord par une prétention exorbitante, qui est la prétention de parler au nom du peuple. Prétention exorbitante, que personne, évidemment, dans une démocratie, n'a le droit de parler au nom du peuple. Et comme le peuple, si on s'arrête là, ce n'est qu'une abstraction, pour que ça prenne du sens, du contenu, ils opposent le peuple soit aux élites, et ça devient de l'anti-parlementarisme, soit bien sûr aux étrangers, et ça devient de la xénophobie, qui sont deux poisons mortifères pour la démographie, pour la démocratie, pardon. Et donc voilà, le populisme, c'est la prétention de parler au nom du peuple, l'opposer aux étrangers et aux élites, et c'est aussi une façon de privilégier les passions, et de préférence les passions tristes, comme disait Spinoza, la haine, la colère, l'envie, plutôt que la raison. Et donc, pour résister au populisme, il faut rappeler les gens à la raison, pas de façon autoritaire, mais de façon intelligente, et rappeler évidemment que, là encore, une démocratie a besoin d'élites, et qu'un pays se vaut, montre sa valeur aussi dans la façon dont il traite les étrangers.
Mais que pensez-vous de tous ceux qui remuent la vase qui est en nous, la vase raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, que sais-je, tous ceux qui agitent les monstres en nous, pour reprendre les mots de la philosophe Simone Veil?
Oui, c'est effrayant, et nous vivons de ce point de vue une sale période, autant face à la pandémie, je trouvais qu'on en exagérait un petit peu la gravité, autant face à cette montée du populisme, du racisme, de l'antisémitisme, de l'antiparlementarisme, là pour le coup, je trouve qu'on en sous-estime peut-être la gravité. Ce qui se passe, moi, écoutez, j'aurai bientôt 70 ans, je n'ai jamais vu des affects aussi désagréables s'étaler autant à la télévision, être aussi répandu. Alors, il faut ajouter, malgré tout, pour pas tomber dans une forme d'angélisme, que ça ne veut pas dire que la question migratoire n'est pas une vraie question. Que l'intégration des immigrés depuis quelques décennies se fasse moins bien qu'avant, c'est une réalité incontestable. Et donc, il faudrait surtout pas considérer que toute personne qui pose de problèmes de l'immigration et de la vague migratoire possible, notamment à cause des réchauffements climatiques, serait forcément raciste ou xénophobe. Mais inversement, prendre acte de l'importance du problème migratoire, ça n'est pas une raison pour donner raison aux racistes ou aux xénophobes.
Laurence de Villers.
La question que je poserais, c'est est-ce qu'on n'est pas en train maintenant d'enterrer l'idée de progrès? Alors, on nous dit que depuis très longtemps, elle est enterrée, on n'y croit plus. Mais il me semble que notre effarement face aux doutes par rapport à la science, aux vaccins, c'est que il faut qu'on renonce, je crois, maintenant. Et c'est un deuil douloureux. Il faut qu'on renonce à cette idée que on allait de mieux en mieux, que ça allait de mieux en mieux. Je crois que on a dit que l'idée de progrès, enfin la religion même du progrès, était morte avec la Grande Guerre, avec les poilus, et que c'était fini, qu'on pouvait plus y croire. Je crois que ça a perduré et que c'est maintenant qu'on se rend compte que c'est fini, ça va pas de mieux en mieux. Et puis la deuxième chose, c'est que derrière le populisme, évidemment, qui manque le peuple, il y a quand même peut-être cette alerte qui est que, et c'est lié au progrès aussi, on a cru que la démocratie était un grand pacificateur, que être en démocratie, ça nous apportait la liberté, la fraternité, c'est pas sûr, l'égalité, peut-être pas, mais en tout cas la paix. Et on se rend compte que la démocratie, c'est aussi une démocratie de la colère. Et que on ne les a pas fait taire. Alors évidemment, je pense que le populisme, c'est une maladie, non pas de la démocratie, mais de la colère. Mais peut-être qu'il ne faut pas jeter la colère avec l'eau du bain, qui est le populisme.
André Comte-Sponville.
Il y a en effet de juste colère, comme chacun sait, mais sur le progrès. D'abord, ce qui est mort, à mon avis, ce n'est pas l'idée de progrès. C'est l'idée d'un progrès linéaire garanti. Ça, c'est évidemment une illusion. Mais en revanche, l'idée de progrès est d'autant moins morte que nous vivons à une époque formidable. On n'a jamais vécu aussi longtemps. On a gagné 20 ans d'espérance de vie. La misère n'a jamais autant reculé dans le monde, à l'échelle de l'humanité, que ces 40 dernières années, ça n'était jamais arrivé depuis 200 000 ans. Au point qu'avant la pandémie, certains économistes pensaient que l'extrême pauvreté serait éradiquée dans les années 2030. Ça sera sans doute un peu plus tard à cause de la pandémie. Les femmes n'ont jamais été aussi libres. Alors, il y a encore des progrès à faire, j'en suis d'accord, mais l'idée qu'une femme puisse dire que c'était mieux avant, je trouve toujours ça hallucinant, si vous voulez. La presse n'a jamais été aussi libre. La radio, la télé sont beaucoup plus libres aujourd'hui. Je parle de la France, là, pour le coup. Sont beaucoup plus libres aujourd'hui que du temps du général de Gaulle, que tout le monde se plaît à célébrer, si vous voulez. Voilà, le fascisme a disparu d'Amérique du Sud. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des dictatures fascistes dans un pays sud-américain sur deux. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait les colonels en Grèce. Le fascisme a été, non pas éliminé, mais enfin, il y a beaucoup moins de dictatures fascistes aujourd'hui. Et donc, dire que c'était mieux avant, c'est un contresens global sur l'histoire. Sauf que, dans la toute dernière période, il n'y a pas eu le fascisme, mais il y a eu l'élection de Trump, il y a eu le Brexit en Angleterre, il y a eu Bolsonaro au Brésil. Et donc, c'est vrai que depuis quelques années, oui, mais c'est pas la même échelle, je dirais que depuis plusieurs décennies, le progrès a manifestement continué. Depuis quelques années, il y a une fragilité politique qui apparaît, y compris en France, notamment révélée par le populisme. Mais là encore, ne jetons pas l'eau du progrès, ne jetons pas le progrès, pardon, plutôt avec l'eau du ben. Et je crois que rester progressiste est très important, mais là encore, surtout pour nos jeunes gens. Parce qu'on laisse croire aux adolescents d'aujourd'hui qui sont nés à la pire des époques. Ah, t'as pas de paume aux pauvres, t'es né au mauvais moment. Ah, t'aurais connu les années 60, les 30 glorieuses, le pied, si vous voulez. Mais non, moi j'y étais aux 30 glorieuses, ce que disait Michel Serres dans son joli petit bouquin « C'était mieux avant ». Il faut prendre le titre par antiphrase. Michel Serres écrivait « Tout le monde répète que c'était mieux avant ». Bah ça tombe bien, avant j'y étais. Je vais vous raconter. Et ce que raconte Michel Serres, c'est qu'avant c'était pas mieux. C'était pire, bien sûr. Alors, soyons vigilants sur les problèmes, donc Trump, Bolsonaro, le Brexit, le populisme. Je dis pas que, encore une fois, le progrès n'est pas linéaire, mais de grâce, ne renonçons pas à l'idée de progrès, parce que ça voue nos jeunes gens à la dépression, à nouveau. Il faut leur dire, écoute, t'as une chance formidable, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans, bats-toi pour que le progrès continue. Là, on aura un message tonique, plutôt que le « c'était mieux avant », qui est décourageant pour les jeunes gens.
Mais André Comte-Sponville, est-ce qu'on pourrait pas se dire que finalement on préfère le tragique au progrès ?
Non, mais le tragique, c'est autre chose. Le tragique, en quelque chose, il est hors de l'histoire. Le fait qu'on va tous mourir, le fait que tout contenant des mortels soit
heureux,
mortel,
par exemple.
Ça ne dépend pas de l'époque,
juste,
si vous voulez.
Il faut juste changer la définition du progrès.
Et puis les domaines où il y a un progrès,
aussi.
Je me tourne vers Maya, c'est la sexualité.
La sexualité
n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Jamais l'homophobie n'a été autant combattue qu'aujourd'hui. Jamais le racisme n'a été autant combattu qu'aujourd'hui. Il y a une remontée du racisme aujourd'hui, malheureusement, mais la lutte contre le racisme est bien plus forte aujourd'hui que dans ma jeunesse, là encore, vous voyez. Et donc, il y a des tas d'éléments positifs qui permettent de penser que, bien sûr, le progrès n'est ni linéaire ni garanti. Il n'est pas pour autant terminé. Ça dépend de nous. Il faut donc se battre pour que le progrès continue. Bref, être progressiste, ça reste possible et surtout, ça reste nécessaire.
Maya Mazorette.
Absolument. Moi, j'ai grandi avec des parents 68 ans qui disaient toujours « Mais c'est terrible parce que nous, on a eu la révolution sexuelle et toi, t'as rien eu, c'était les années SIDA. » Et on pourrait dire aujourd'hui, c'est la génération YouPorn, c'est le harcèlement en ligne, c'est la pédophilie sur Internet. Et on s'aperçoit que tout ce qui était perçu comme des énormes régressions a pu être perçu comme une réinvention de nouveaux rapports sexuels, qu'avec le mouvement MeToo, mine de rien, c'est les femmes qui apprennent à dire non à des rapports non désirés, et que tout ce qui est perçu par la génération de mes parents comme tragique, en l'occurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour les jeunes.
André Comte-Sponville, je feuillette votre dictionnaire, je tombe sur l'entrée bonheur. Tiens, quelle est votre définition du bonheur ? Est-ce le contraire du malheur ?
Alors, d'abord, qu'est-ce que le bonheur ?
C'est une question. On n'a pas 3 heures. Hein.
C'est une question difficile parce que, comme disait Kant, le bonheur est un idéal non de la raison mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je vais vous proposer une définition. Alors, disons d'abord ce que le bonheur n'est pas. Le bonheur, ça n'est évidemment pas une joie continue, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Et bien sûr, ça n'existe pas. Parce que le propre de la joie, c'est justement la discontinuité, l'explosion, les variations. Donc le bonheur, ça n'est pas la félicité. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. Ce que j'appelle la satiété. Ça n'est pas la satisfaction de tous nos désirs pour deux raisons. D'abord, parce que nos désirs sont ouverts à l'infini et donc ils ne sont jamais tous satisfaits. Mais aussi parce que la satisfaction de tous nos désirs, ça serait mortellement ennuyeux. Alors si le bonheur n'est ni une joie constante, la félicité, ni la satisfaction de tous nos désirs, la satiété, qu'est-ce que c'est? Alors ma réponse, qui va vous paraître triviale, mais que je crois en vérité assez forte, c'est de dire en effet que le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé. On est considérablement avancé. Parce que le bonheur, ça n'est qu'un idéal de l'imagination. Le malheur, c'est pas un idéal de l'imagination. C'est pas un idéal du tout. C'est une expérience. Autrement dit, est-ce que j'ai vraiment été heureux, pleinement heureux, ne serait-ce que 3 jours de ma vie, je n'en sais rien. Est-ce que j'ai été vraiment malheureux parfois dans ma vie? Ça, je le sais très bien. Je le sais très bien. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur cette expérience vraie du malheur, pour savoir ce qu'est le malheur, et par différence, puisque le bonheur c'est le contraire du malheur, savoir ce qu'est le bonheur. Donc mon expérience vraie du malheur m'amène à penser que le malheur c'est tout laps de temps, toute durée, où la joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée ni les jours qui suivent. Pourquoi? Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie est impossible. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. J'appelle donc bonheur tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réel, bien sûr, ne rêvez pas, c'est pas la félicité, mais continuellement possible. Vous vous réveillez le matin, la joie est là où elle n'y est pas. Pour moi le matin, pour tout vous dire, elle y est rarement. Mais vous savez qu'elle va venir, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien ces longs moments qui peuvent durer des années, où la joie vous paraît non pas toujours réelle, mais continuellement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur.
En fait, le bonheur, c'est la possibilité d'être heureux.
Et c'est la possibilité d'être joyeux, et donc d'être heureux.
Et à propos de la recherche du bonheur, vous citez à juste titre le philosophe Alain, qui écrit que le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Laurence de Villers.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Laurence de Villers.
Peut-on enfermer toute la philosophie en un dictionnaire de A à Z? Et pourquoi pas? Après tout, les philosophes parlent comme nous. Je parcours le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, j'écoute Ali Rebéi et ses invités, et oui, je le confirme, les philosophes parlent comme tout le monde. Ils parlent, ce sont des entrées du dictionnaire, d'amour, de désir, de débauche, d'héroïsme, de tristesse, de vandalisme. Leurs mots sont les nôtres. Alors pourquoi, me direz-vous, nous ne les comprenons pas?
Pas toujours.
Pas toujours. Pourquoi associons-nous souvent le langage philosophique a des raisonnements compliqués, alambiqués, éloignés du langage courant.
Théiste, qu'est-ce que c'est que? Et que veut dire le mot être? La première question sur la question qui s'est imposée à moi était celle-ci, elle était double en quelque sorte. Est-ce que la forme questionnante est la forme absolument privilégié ou par excellence de la philosophie. Autrement dit, est-ce que penser, c'est questionner? Est-ce qu'il n'y a pas, avant la question, un mouvement de pensée qui n'est pas questionnant, mais qui est au contraire une affirmation?
Si les philosophes, comme Derrida que l'on vient d'entendre, si les philosophes utilisent le langage de tous les jours, s'ils parlent comme nous, ils ne pensent pas comme nous. Plus encore, philosopher est souvent, peut-être nécessairement, penser à contre-courant, penser contre soi, contre la vie générale, contre les idées admises et contre les opinions toutes faites. Le saint patron des philosophes devrait être Diogène, cet enfant terrible de la philosophie grecque qui n'a rien d'un saint, Dieu merci, mais qui apostrophe, dérange, brise les conforts et bouscule les certitudes. Quand on demandait à Diogène, donc aux environs du 3e siècle avant Jésus-Christ, pourquoi il entrait au théâtre quand tout le monde en sortait, il répondait que c'était là son rôle. Parce que le philosophe ne doit jamais aller dans le sens du vent. Une philosophie qui ne dérange pas ne vaut pas une heure de peine. Alors, on pourra accompagner André Comte-Sponville dans son dictionnaire philosophique et avec lui, ne pas penser comme tout le monde. Affirmer, par exemple, ce qui m'a toujours étonné et peut-être pas encore totalement convaincu, que l'espoir n'est pas ce qui fait vivre, mais qu'il est une forme de peur et d'ignorance. À la lettre E, je lis en effet « espoir » et je vois que pour être dans la joie, il faut bannir et la crainte et l'espoir. Moi qui croyais que nous ne faisions que nourrir l'espérance, dans nos désirs comme dans nos actes, qu'il nous fallait, pour affronter l'incertain de nos vies, marcher avec espoir, je dois prendre le temps, avec André Comte-Sponville, de penser différemment. Je vous l'avais dit, les philosophes, les vrais, s'ils parlent comme tout le monde, ne pensent absolument pas comme tout le monde.
La chronique philo de Laurence de Villers cette semaine, et on retrouvera Thibaut de Saint-Maurice la semaine prochaine. André Comte-Sponville, on n'a pas parlé d'amour. 7 pages dans votre dictionnaire.
Oui, je pense que c'est la plus longue définition.
D'ailleurs, je cite les 3 dernières lignes. C'est l'amour qui fait vivre, puisque c'est lui qui rend la vie aimable. C'est l'amour qui sauve, c'est donc lui qu'il s'agit de sauver.
Oui, l'amour plus que l'espoir, parce que la grande formule de Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte. Donc si vous vivez dans l'espoir, vous vivez dans la peur. Et les moments de sérénité que nous vivons, c'est des moments libérés de la peur, donc libérés de l'espoir, quand il n'y a plus rien à espérer, parce que le réel tel qu'il est suffit à nous combler. C'est l'expérience de la joie.
Dans quelques instants, on retrouve la chronique sexe de Maya Mazorette. En attendant, on écoute Ours et M qui interprète Petit Jour.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens, on laisse, c'est idiot.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Toi aussi, Maya, tu as lu le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville.
Oui, non. Non, absolument pas, désolée.
Ah bon ?
Et en fait, pour une raison simple, je suis désolée. Comme chacun sait autour de cette table, je suis une femme de mesure et de tempérance. Or, votre livre, André Comte-Sponville, fait 1440 pages. Il pèse 1,8 kg. Et c'est face à ce genre d'excès qu'une excellente citoyenne comme moi doit savoir camper sur ses principes. Quand un livre commence à faire le poids d'un bébé, quand un livre devient potentiellement une arme de catégorie 4, peu importe le contenu, on entre dans le domaine du déraisonnable, ce qui nous amène logiquement à l'objet de cette chronique. En sexe, à quel moment est-ce déraisonnable? À quel moment est-ce que c'est trop gros? Et je sais que ça paraît très très léger comme sujet, mais en France, il y a 5000 femmes chaque année qui se font réduire les lèvres de la vulve, trop grosses à leur goût, tandis qu'un tiers des jeunes hommes disent avoir des complexes quand ils regardent du porno. Leur pénis n'est pas assez gros.
Alors,
à leur goût.
C'est sûr, Maya, qu'on sort rarement gagnant quand on se compare avec le porno.
Oui, et en même temps, le porno n'a aucune vocation à être réaliste. À la rigueur, au contraire. Vous connaissez l'adage, plus c'est gros, mieux ça passe. C'est vrai pour les séquences X sur Internet, mais c'est pareil pour les textes érotiques d'Apollinaire, c'est pareil pour les estampes japonaises. Personne ne va sur YouPorn pour trouver du sexe raisonnable en missionnaire, lumière éteinte. Et le problème, c'est que volontairement ou pas, on va finir par s'habituer à ces représentations déraisonnables, excessives, too much. Déjà parce qu'elles sont omniprésentes, mais aussi parce que tabou oblige. Il n'y a quasiment pas d'autres représentations. Du coup, oui, c'est trop gros, mais c'est tout ce qu'on a. Et ça explique un des paradoxes de la sexualité contemporaine. L'excès est devenu banal, l'excès est devenu la norme.
Alors avec quoi faudrait-il se comparer ?
Eh ben, je vais reprendre mes exemples anatomiques. Un pénis de 15 cm en érection, c'est trop peu par rapport au porno, clairement. Mais c'est beaucoup par rapport à la moyenne des hommes. Là, c'est 13 cm pour rappel. Et c'est beaucoup aussi par rapport à la profondeur moyenne d'un vagin. C'est 12 cm en moyenne, pour rappel. Dans la vraie vie, si les hommes avaient vraiment des aubergines entre les jambes, s'ils pratiquaient des pénétrations pendant 4 heures d'affilée, ce serait trop pour leurs partenaires. Et il me semble que le point de comparaison, ça devrait être, autant que possible, le confort de nos partenaires, le plaisir de nos partenaires. Et c'est la même chose pour les femmes, pour les petites lèvres qui peuvent dépasser. C'est trop par rapport aux standards du porno et des poupées Barbie, mais c'est bien pratique pour protéger le vagin et le clitoris. Une fois encore, le point de comparaison devrait être le confort et le plaisir. Parce que généralement, quand même, c'est ça l'objectif du sexe.
Moralité, tu es en train de nous appeler à consommer avec modération.
Eh bien, figure-toi, Ali, qu'il y a une entrée qui parle de ça dans les 1440 pages du dictionnaire philosophique. L'entrée luxure, et luxure que vous, André Comte-Sponville, vous définissez ainsi, usage immodéré des plaisirs sexuels. Mais être immodéré, est-ce que c'est seulement possible ? Eh bien, selon vous, en fait, non. Parce que même si on avait les moyens logistiques de vivre dans le rêve pornographique, dans l'abondance absolue, dans le sexe démesuré, typiquement le fantasme du harem, eh ben le corps ne tiendrait pas la distance, donc il faudrait quand même s'arrêter un moment. Quand c'est trop, on n'y arrive plus. Et c'est sans doute là qu'il faut chercher l'explication à notre fascination pour les gros formats et les grosses performances. Si on est intellectuellement fasciné par ces excès, c'est parce que physiquement, on est condamné à la modération. Et là, la sexualité rejoint la philosophie, qui elle-même rejoint la sagesse populaire. Le mieux est l'ennemi du bien, et quand c'est trop, c'est vraiment trop.
Et vous pouvez podcaster, partager la chronique de Maya Mazorette sur l'appli France Inter, et vous pouvez lire avec profit le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville. C'est la 3e édition mise à jour, et c'est publié dans la collection Quadrige au PUF. Merci André Comte-Sponville.
Merci à vous.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien, en compagnie d'Agathe Le Caron et de Christophe André, une émission consacrée à la gourmandise. Et lundi, des conseils pour bien vieillir grâce au contenu de son assiette. Toutes vos questions dès maintenant en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.